C'est une très belle aventure, je vous dirais. Moi, je le conseille à n'importe qui, mais soyez prêts à pleurer, soyez prêts à saigner, puis soyez prêts à suer. C'est les trois fluides qui vont sortir de vos corps.
C'est très vendeur. Pour un podcast d'inspiration d'entreprise, merci Julien.
Bonjour, bienvenue au projet Simplement Audacieux, un podcast où l'on fait ressortir les histoires d'entrepreneurs d'ici. Inspirant, authentique et persévérant. Découvrez les hauts et les bas qu'ils ont vécus.
Simplement Audacieux est un projet de Lavalineuve, animé par François Bilodeau
et Ève Lacourcière. Bonjour et bienvenue au troisième épisode. Nous sommes aujourd'hui le 30 avril 2021. Si vous n'avez pas eu la chance d'écouter les épisodes précédents, nous vous invitons à le faire, puisque chaque épisode présente des réalités d'entrepreneurs complètement différentes selon leur secteur d'activité et, bien évidemment, leur personnalité. Nous traversons actuellement, au Québec, la troisième vague de la pandémie COVID-19. Cette situation a créé la chute de certaines entreprises, alors que d'autres ont eu la chance d'y découvrir une opportunité. Restez avec nous pour entendre de quelle manière cette situation extraordinaire a affecté notre prochaine invitée.
Merci, messieurs. Merci pour l'opportunité de nous recevoir, de vous parler aujourd'hui. C'est très, très apprécié.
Plaisir, plaisir. Plaisir, oui.
Donc, on est aujourd'hui au Beroya, restaurant de Laval. Et puis, j'aimerais ça que vous vous présentiez, messieurs, dire votre nom, le nom de votre entreprise. Et puis, quel est le lien avec ce restaurant? Pourquoi on a eu l'opportunité aujourd'hui de venir faire un tournage ici?
Bon, parfait. Donc, je m'appelle Julien Michal, que je suis le fondateur et l'inventeur de YouFrost. Notre compagnie s'appelle Ether Innovation, YouFrost étant le nom du produit. Et voilà, on est actif, incorporé depuis 2016 et aujourd'hui, ben, on a le vent dans les voiles.
Yes. Ben moi, je m'appelle Michael Gannum. Je suis un des cofondateurs de YouFrost. Depuis 2018, je fais partie de Ether Innovation. Et aujourd'hui, on est dans le restaurant de mon cousin, Tamer Manouchakian, qui a ouvert Beroya en 2016. Donc, un magnifique petit restaurant du Moyen-Orient avec toutes les flavors puis le flavor. Qu'il y a. Et oui, c'est pas mal ça.
Ouais, ben c'est vraiment génial. Et puis pour nos auditeurs, sachez qu'on respecte toutes les mesures sanitaires. Donc on est chanceux. Nous sommes chanceux pour le tournage. Les propriétaires le sont moins. Le restaurant est fermé là, pour le service en salle, toujours ouvert pour le take-out. Donc, c'est ce qui nous permet d'utiliser tout l'espace là, avec nos micros à 2 mètres de distance et de faire cette entrevue en toute quiétude cet après-midi. Si vous entendez des bruits là, pendant l'enregistrement, ben, c'est qu'il y a quand même des clients qui vont se présenter à la porte. Et vous allez peut-être entendre des petites ding.
Oui, des ding et des ouh.
Et voilà, c'est parti pour cette belle heure en votre compagnie.
Parfait. Je me réserve, je prends la première question. Comment ça a parti, Ether Innovation?
Ether Innovation. Donc, en premier, ce qui est parti, je vous dirais, c'est le produit, c'est YouFrost. J'étais personnellement, pendant mes études en ingénierie, j'étais propriétaire d'un bar sur la rue Saint-Laurent à Montréal. À 21 ans, hein, vous pouvez vous imaginer ce que ça donne comme résultat. Mais une soirée, je me rappelle très bien la date, c'était le 24 janvier 2013, qui était un jeudi. On était ouvert et il faisait moins 30 dehors. Il y avait personne qui s'est pointé au bar. Alors, un bar de 5000 pieds carrés, pas de table, quand il y a personne, je peux vous dire que ça fait assez vide, merci. Et donc, on ferme plus tôt. Puis moi, j'étais un petit peu frustré. Tu sais, je me dis, comment ça? Il y a personne qui s'est pointé, mais il y avait personne dans les rues. C'était complètement désert. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai que c'est à Montréal qui fait le plus froid dans le monde. Alors, esprit un peu créatif, je me mets à rechercher sur YouTube. Tu sais, je suis chez nous, c'est la nuit. J'étais habitué de me coucher à 5-6 heures le matin après avoir compté les caisses. Donc là, il est minuit, tu sais, puis j'ai la nuit, si on veut, devant moi.
T'as du temps à brûler, là.
Voilà. Alors, je recherche sur YouTube les endroits les plus froids au monde et je tombe sur une vidéo en Sibérie où est-ce qu'il fait moins 64 degrés Celsius dehors, là. Pas moins 30, moins 40 comme on est habitué, là. 24 degrés de moins. c'est des les vidéos, en fait, c'est des Russes sont là. Tu sais, ils montent... qui fait froid dehors et ils sortent un moment donné une bouteille de 7-Up. Là, le 7-Up gèle dans la bouteille en pas longtemps. Puis un moment donné, ben, hein, on est en Russie, fait qu'il y a une petite bouteille de vodka. Et la vodka se met à geler dans la bouteille. Et moi, bon, j'étais étudiant en ingénierie, je sais que l'alcool, ça gèle à un certain point. Sauf que ça gèle pas dans nos congélateurs. Fait que on pense que ça gèle à moins 1000. Mais non, à moins 64, apparemment, ça fonctionne. fait qu'eux autres, ils en restent pas là. Ils prennent la bouteille, ils la cassent. Puis ils commencent à manger la vodka puis les mettre sur des popsicles et tout ça. Fait que là, moi, je vois ça, je me dis, oh my God, si je pourrais offrir des popsicles de vodka dans mon bar, ben peut-être qu'un 24 janvier, quand il fait moins 30, les gens vont se pointer pareil parce que je vais avoir quelque chose de nouveau. Et là, j'appelle mon partenaire, hein, qui dort pas non plus, dans la nuit, il me répond. J'ai dit l'idée, il me dit, écoute, regardons s'il y a des congélateurs qui existent, qui peuvent aller à ces températures-là, qu'on pourrait installer au bar, tu sais. Fait que je fais une petite recherche, grosse recherche, puis le plus petit que je trouve... Il est gros comme la pièce ici, là, puis je peux vous le garantir qu'on est à 2 mètres là, de distance. Là. Donc, il est gros comme la pièce ici, puis il coûte 2 millions, genre le plus petit. fait que, cancel le projet, si on veut, tu sais. Puis là, je retourne à l'école le lundi matin, tu sais, un peu magané, comme d'habitude. Et là, mes amis me disent, pourquoi tu l'inventes pas, cette machine-là? Tu sais, t'es tout le temps en train d'inventer des affaires qui servent à rien, des cochonneries, tu sais. Pourquoi tu inventerais pas quelque chose d'utile un moment donné dans ta vie, tu sais? Fait que, OK, pourquoi pas? Je commence à dessiner des affaires, finalement. Je fais un prototype, le prototype fonctionne pas. Fait que là, j'en fais un deuxième. Hop, il fonctionne une première fois, un troisième. Ça a pris 4 ans, ce processus-là entre l'idée et avoir une machine qui est là ici, là, que vous voyez à côté de nous, qui fonctionne comme un charme, si on veut. Et voilà, c'est un petit peu ça l'histoire de comment c'est arrivé. C'est un vidéo YouTube des Russes, un mélange de frustration, puis l'idée de génie, Ting, arrive après ça. Fait que ça.
Puis Mike, t'es arrivé dans l'histoire quand?
C'est drôle à dire parce que je me rappelle en 2014, je pense que c'était la première petite machine qui a sorti. J'arrive chez Julien, un petit appartement devant...
Parce que Mike et moi, on se connaît depuis 10 ans.
Au moins 10 ans. Puis il y avait un petit appartement devant l'Université de Montréal où il faisait ses études. Là, j'arrive, puis Julien avec des cheveux un peu partout, tu sais, en chest, il est comme « Guys, man, j'ai trouvé l'affaire! » Je suis comme « OK, quoi? » Puis là, il me montre une petite boîte comme ça, comme grand, tu sais, à peu près 6 pouces par 6 pouces, minime, en métal, puis il dit ça, ça va geler n'importe quoi. Puis là, je comprends absolument rien, il n'y a rien branché là-dedans, il n'y a rien là-dessus, je suis comme, comment ça marche? Mais comme, regarde, là, ça va passer par là, puis ça va faire ça, puis ça va faire ci, puis ça va faire ça. Puis ça, c'était en 2014. Fait que là, 2016 arrive, les projets dans la tête à Julien, tu sais, ça avance, puis un jour, j'arrive, puis je vois quelque chose comme la machine que vous voyez à côté de vous, mais un peu plus petit. Et là, ça clique. Puis je vois le futur devant moi et une technologie complètement... C'est hors du commun. J'avais jamais vu ou j'avais jamais pensé à quelque chose qui peut congeler n'importe quoi instantanément. Et j'avais pas vraiment compris le concept non plus jusqu'à temps que Julien m'offre un vodka gelé. Puis là, j'étais comme, OK, bon, ben, je comprends pourquoi on a besoin de ça.
Ça l'a fait, ouais.
c'était aussi simple quand t'as un bout de vodka gelé dans ta bouche. Puis, tu sais, c'est froid, mais tu le goûtes. Puis, tu comprends pas exactement comment ça a marché. C'est là où l'innovation, tu peux goûter à l'innovation. Et c'est là où une idée prend vraiment sa proie. Fait que c'était ça. Puis. Ben,
Comment il a travaillé avec nous, en fait, si 2000, tu veux, Mike, je prends la balle, ben, 2018, ouais, Mike est entre deux jobs.
Entre quelques jobs, en fait. je travaillais dans l'univers du crypto en relations publiques, puis comme vous pouvez comprendre, c'était un univers assez compliqué dans le temps. Et là, j'avais fini une grosse conversation devant Julien, chez lui, avec des clients et tout ça, puis mes clients ont juste disparu avec mon idée. Et là, Julien se retourne et il me demande... As-tu besoin d'un job?
As-tu besoin d'un job, Mike? Tu sais, pourquoi pas? Puis là, il dit, c'est quoi la job? J'ai dit, c'est assez simple. Toute la journée, on fait des appels pour vendre des événements. Ça te tente-tu?
Il dit, j'ai dit, ouais, okay. Let's go. Ça, on débarque.
Fait qu'il a commencé à travailler comme ça. Puis très rapidement, ouais, on l'envoyait à droite puis à gauche. Genre, Mike va chercher ça. Mike va faire tel événement. Mike va t'en au château. Richelieu, manoir Richelieu, 4 heures de route, tout seul.
Ouais. Puis c'était drôle parce que, tu sais, l'inconnu fait partie de l'entrepreneuriat puis un peu l'aventure de l'entrepreneuriat. Mais moi, quand j'ai sauté là-dedans, j'avais aucune idée. Moi, j'avais, tu sais, je pensais que, OK, tout était préparé, t'as Julien, t'as sa cousine, tout est comme, tu sais, c'est un plan fixe. Mais là, je rentre là-dedans puis, ah, surprise, on crée le plan as we're going along.
Ouais, c'est ça.
Et c'était la première grosse surprise dans l'entrepreneuriat que j'ai eue, mais c'est en fait comme la plus belle partie un peu de cette aventure-là, ouais. C'était l'inconnu dans tout. Donc,
c'est un peu ça l'expression, hein? On sort de l'avion puis on construit notre parachute en tombant.
100%.
Ben, nous autres, c'est l'histoire de notre vie, là.
Ouais. Donc, le plan n'était pas plus clair pour toi, Julien, là, écoute, en 2014, 2016, 2018.
Moi, j'ai parti ça avec ma cousine. Ma cousine, Claude-Marie, a travaillé chez Bombardier avant. Puis elle a quitté en 2015 et là, elle voulait avoir une aventure entrepreneuriale. C'est une fille de tête, c'est une fille d'affaires. Et moi, à l'époque, j'étais plus comme un scientifique.
Tu avais quel âge, excuse de t'interrompre?
J'avais 25 ans.
25 ans, OK.
Quand on a démarré ça ensemble. Puis mon rôle au départ, c'était d'être l'inventeur, d'être le gars un peu derrière le rideau. Puis que Claude-Marie devait être la fille plus au-devant qui construit. La gestionnaire, c'est ça. Exactement. Et là, en 2018, elle a eu des enjeux un peu dans sa vie personnelle, puis elle a décidé d'arrêter. Donc là, j'ai comme pas le choix de devenir un entrepreneur. Et c'est comme en même temps que Mike est arrivé. Fait que voilà. Donc Mike et moi, on brave le feu depuis depuis ce temps-là. Puis je vous dirais que ça a jamais arrêté.
Ah ouais.
Fait que pour l'instant, est-ce qu'il y a vous deux dans État Innovation? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec vous?
Donc, en date d'aujourd'hui, on a d'autres partenaires. Donc, on a un entrepreneur d'expérience, Nicolas Routier, qui s'est joint à l'aventure récemment. Et okay. Deux de nos premiers employés se sont joints aussi à l'aventure pour remplacer Claude-Marie. Parce que Claude-Marie voulait...
Ça n'en prenait deux pour la remplacer.
Trois même.
OK.
voilà. Donc, Claude-Marie, ça reste ma cousine, mais elle fait plus partie de l'aventure en date d'aujourd'hui.
OK. Là, vous avez dit à deux, trois reprises, la machine qu'on voit à côté de nous, on sait qu'on a pris des images qui vont rouler sur nos réseaux sociaux, que les gens peuvent aller sur votre site web pour la voir. Mais pour les gens qui vont simplement écouter le podcast, est-ce que vous pourriez la décrire, cette machine-là?
C'est une machine en forme de U. Hein? U-Frost, ça vient d'une certaine connotation de design, qui est environ 2 pieds par 2 pieds. C'est notre première machine événementielle avec une petite bonbonne de gaz d'environ 3 pieds d'eau qu'on peut mettre en dessous d'une table qui est connectée à côté. Puis comme Mike a dit au départ, pas d'électricité, pas d'azote liquide, même pas besoin de brancher. Donc, on peut vraiment l'installer où est-ce qu'on veut. Ça peut être plein milieu d'un parc, ça peut être... sur un bateau, en plein milieu d'un restaurant.
Et donc, qu'est-ce qu'il y a, Mike, dans la bonbonne?
Ah, donc la bonbonne, en fait, c'est un gaz assez spécial. C'est du CO2 recyclé. Donc, normalement, le CO2, tu sais, c'est être rejeté dans l'air, mais la compagnie, à travers qu'on l'achète, il la recanne, reprend et le compresse pour le donner une deuxième vie. Donc, ça fait, on n'est pas assez confortable pour dire que c'est un green tech encore, mais mettons, ça va l'être dans pas très, très longtemps.
Ouais, 95%.
Ouais, c'est ça.
Il y a un potentiel là, d'énergie verte ici.
Effectivement.
Puis avant l'enregistrement, vous parliez d'une machine du futur que vous voulez inventer qui ferait récupérer.
C'est que la capture du CO2, en date d'aujourd'hui, ça prend des très gros équipements. Nous, on voudrait que la capture du CO2 directement dans l'air se fasse sur notre machine. Et pour ça, il faut inventer un micro-compresseur.
C'est la prochaine étape. C'est le prochain parachute qu'on doit se construire en tombant de l'avion. Tu sais. au moins, on a eu un peu plus d'altitude cette fois-ci. Mais oui, en fait, la machine, techniquement, c'est la première machine au monde. Et je veux pas faire le pitch des pitchs, là, mais c'est la première machine au monde qui est capable de geler n'importe quoi sans électricité ni azote liquide au bout de 30 secondes parce que ça tombe à des températures de moins 100. Donc, théoriquement, c'est une machine à congeler. Donc, n'importe quoi qui peut être congelé dans le futur, aujourd'hui ou dans le futur, tu sais, à un moment donné, on va adapter notre machine à ça. Donc, il y a une grosse, très grande aventure devant nous.
Ouais, d'accord.
D'ailleurs, là, vous faisiez de l'événementiel. Vous geliez de la vodka.
Exact.
Oui.
Parmi d'autres choses, oui.
Comme quoi d'autre?
N'importe quel produit. Ça peut être des liqueurs, ça peut être même des jus. On a fait des événements sans alcool pour des enfants qui viennent, qui disent « Ah, ben moi, je veux telle affaire dans mon popsicle. » Bon, on te le fait tout de suite devant toi. Puis ce qu'on aime faire aussi, c'est intégrer des produits naturels, des sirops qu'on va faire nous-mêmes, comme des sirops d'hibiscus ou des sirops de butterfly pea flower, là, qui est super à la mode. Là. Vous allez voir ça dans les gins bleus québécois. Là. C'est l'espèce de plante, de fleurs qu'ils mettent pour donner la couleur bleue. Donc, oui, l'événementiel, C'est ce qu'on fait. Donc, toutes sortes d'ingrédients.
C'est ça. Si on regarde nos clients, tu sais, qu'on a fait dans le temps ou juste quelques événements qu'on a fait, tu sais, des parties de scotch, ça a été vraiment le fun parce que pour la première fois, tu peux avoir ton scotch qui est comme, ben, avec que du scotch. Il n'y a pas d'eau là-dedans. Il n'y a pas de cube en titanium, je ne sais pas trop quoi, que tu mets dans ton drink. Tu as du scotch gelé dans du scotch. Ben, c'est parfait. D'autres affaires qu'on a faites, plusieurs, c'était des parties d'huîtres. Fait que tu as un gros table de huîtres. Plein, t'as quelqu'un qui est là en train de choquer genre 208 la minute, genre. Puis à côté de nous, c'est à côté de ça, t'as nous qui est en train de geler de l'alcool, que ce soit cette fois-ci, t'avais un avec le vodka, t'avais un avec un clamato drink, t'avais du Bloody Caesar qu'on gelait, et là, on dressait, on le mettait par-dessus l'huître pour le servir de ce genre-là.
Donc, c'est une huître avec une petite pastille ou une petite pelle qu'on appelle de vodka, donc t'as tous les ingrédients avec ton huître qui sont gelés, qui sont frais, puis ça garde vraiment la fraîcheur, ça amène à un autre niveau, là, la consommation d'huîtres. Donc, c'est autant des cocktails évolutifs qu'on va dire qu'on faisait, des bouchées et autant des ce qu'on appelle des food pairing ou des assemblages nourriture avec de l'alcool ou sans alcool, mais une partie gelée dans tous les cas.
Je veux revenir vers l'entreprise. Je sais, Julien, à travers nos discussions, tu as parlé du programme Adopt Inc. qui t'avait beaucoup aidé ou qui avait beaucoup aidé l'entreprise. Je voudrais que tu me parles de ça un peu. Comment ça vous a aidé?
Adopt Inc., je vous dirais, ça a été un point charnière dans notre histoire. Donc, on a appliqué en 2018, refusé. Et là, c'était comme très frustrant. Tu sais, je suis même allé voir Nicolas Duvernois après l'annonce. Puis j'ai dit, hey, comment ça, tu ne m'as pas choisi? Il dit, tu devrais réappliquer l'année prochaine, tu étais proche, etc. Fait que l'année d'après, on réapplique. Et là, le programme, en fait, ça vient.
Peux-tu parler, excuse de t'interrompre, parle-nous du programme Adopt Inc, puis après ça, raconte-nous ton histoire, ça va être un peu plus facile.
Parfait, bien, Adopt Inc, ça a été mis en place par Nicolas Duvernois, qui est un dragon aussi à Radio-Canada, et Anne Marcotte, qui est une entrepreneur d'expérience. C'est un programme qui vise à accompagner les entrepreneurs dans leur progression. Donc, ça vient avec une bourse de 24 000 $ qui représente un an de salaire, si on veut, et du mentorat. Puis aussi plein d'ateliers au travers du parcours qui dure un an. Et voilà, je pense que je le résume assez bien.
C'est parfait, oui, merci. Donc là, t'as relancé Nicolas pour lui dire comment c'est qu'on a perdu.
Bien, tout de suite après l'annonce en 2018, moi, je suis quelqu'un qui aime pas perdre, hein. Fait que j'allais voir comment ça, j'ai perdu. fait que je me pointe, je vais voir Nicolas, j'ai dit, tu sais, comment ça? Il dit, ah, ben t'étais proche, mais tu sais, il manque une petite affaire. Fait que. Tu sais, cette année-là, Mike était avec nous, fait qu'on a roulé toute l'année. Puis l'année d'après, quand on a réappliqué, là, on a eu la totale. Donc, on a été adoptés, premièrement. Puis notre mentor, c'était Jean-Martin Haussan. Puis nous autres, on a eu la bourse. Parce que c'est pas tout le monde qui a la bourse. Ils en choisissent 6 à 9 sur les 25 qui ont la bourse. Puis nous, on a été choisis comme ayant la bourse. Et ce que ça a créé, en fait, dans notre parcours, c'est vraiment une confirmation qu'on a le droit de faire partie de l'écosystème entrepreneurial au Québec. Et ça amène une confiance qui après, ben tu prends le téléphone, tu peux parler à quelqu'un, tu peux dire, écoute, moi, je fais partie d'Adopting, mon mentor, c'est Jean-Martin Haussan, je parle à Nicolas Duvernois, regarde, on a fait tout ça, on a été sélectionnés. Ça donne la crédibilité incroyable pour ton client.
Ça part bien une conversation avec un client.
Oui, c'est ça, c'est ça. Puis en même temps, ben tu as accès à tout ce réseau-là, toute leur expertise et vraiment, s'il y avait une expérience qui a fait une grosse différence, surtout au niveau crédibilité, notoriété et confirmation que on est à bonne place, tu sais, parce que quand t'es entrepreneur, tu te remets tous les jours en question en disant, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Tu sais, c'est-tu la bonne direction? Devrais-tu pas me trouver une job, normale pour que ma famille arrête de me dire, qu'est-ce que tu fais de ta vie, tu sais? donc, être sélectionné dans une cohorte comme ça, c'est vraiment une confirmation, puis ça donne la confiance, puis ça donne la motivation de continuer, là. Voilà.
Parce que tu l'as mentionné, ta famille était ingénieure, donc tes parents te voyaient comme ingénieur, peut-être dans une grosse compagnie.
Pire. Tes parents, si t'es pas médecin, t'es pas accepté.
Ah, il y a de la pression, OK.
Ouais, ouais, ouais. Puis, okay. Tu sais, c'est des gens très by the book, là, on va dire, là. C'est pas des gens qui aiment le risque.
Ça, fait que ça, c'est les parents d'un gars qui avait un bar à 21 ans.
Exactement. Fait que, c'est ça.
Mais comment ils ont réagi, donc, que t'as repris ça après le départ de ta cousine, là?
Ah, ben, je veux dire, je pense qu'en date d'aujourd'hui, ils commencent à comprendre. Mais avant ça, c'était tout le temps comme un sujet un peu tabou. Là. Qu'est-ce que Julien, il fait? On le sait pas. Ça a toujours été le rebelle de la famille. Comment ça, il est pas médecin? c'est à peu près ça.
T'es originaire de où, toi, Julien?
Moi, je suis né ici au Québec. En fait, je suis né à Laval, à côté, à la Cité de la Santé.
OK.
Mon nom de famille, par exemple, Michel, que ça vient de l'Europe de l'Est.
OK.
Et mon deuxième nom, c'est Allaire. Donc, okay. Moitié Québécois, moitié Québécois de troisième génération.
Si des frères, des sœurs?
Deux demi-frères.
OK.
Deux demi-frères qui sont, justement, actuaires et ingénieurs.
OK, c'est ça.
Ça vous dit c'est...
Puis toi, Mike, t'es originaire?
Moi, je suis né ici. Je suis moitié arménien, moitié syrien, dont le restaurant syrien qui appartient à mon cousin. Puis nous autres, dans la famille, c'est drôle à dire, mais la famille Gannoum, c'est une très, très grande famille. J'ai 21 premiers cousins. Je niaise même pas. Et 16 de ces cousins-là sont médecins. Fait qu'essentiellement, moi, ta mère, qui est le propriétaire de ce restaurant, puis un autre cousin, c'est les seuls qui font pas de la médecine. Okay. Et les autres sont comme connectés à ça. Fait que c'était assez drôle de me voir y aller. J'ai aussi une sœur qui est médecin.
OK.
Puis oui, je suis le seul dans la famille qui fait du entertainment, mettons, au lieu de la médecine.
Comment ta famille voit ça?
Ah, ils adorent ça. Ben, c'est drôle, au moins qu'il y en a un qui ne fait pas ça. T'sais, c'est des nouvelles histoires autour de la table.
Attends, ouais. Mike, au début.
Attends, OK.
Raconte au début.
On va l'avoir la vraie histoire.
C'est ça
l'avantage d'avoir deux interviewés.
Ouais,
hein?
Les juicy details. Fait que c'est très simple. Mes parents ont une compagnie de papier peint et de décoration intérieure. C'est une institution ici à Montréal. Ça s'appelle Empire Papier Peint. Fait que moi, mettons... La direction que mes parents pensaient, c'était comme toute autre famille immigrante, c'est le fils va prendre le business du père et il va le grandir pendant des siècles, bla bla bla. Mais pour moi, tu sais, l'entreprise était très très belle entreprise. D'ailleurs, je travaille encore là, puis c'est une magnifique entreprise. Mais pour moi, c'était pas assez. C'était pas assez parce que l'aventure là-dedans, pour ce que je voyais, c'était pas la même que l'aventure que j'avais avec UFrost. Donc, le début, c'était très difficile de leur convaincre que hop, je ne peux pas travailler ici, je dois aller faire un événement. Puis comme j'en ai trois autres la semaine, ah oui, mais j'ai pas de staff. Ça, c'était une grosse, grosse histoire.
Oui, mais attends, on va aller dans les juicy details. Là. Dans le fond, au début, on était dans son garage.
OK, attends. Ça, c'est une autre bonne... Fait que nous autres, là, quand on a commencé en 2018, on n'a pas de local. On a 15 machines comme ça. Et on a tout un stock de bars parce qu'on doit faire de l'événementiel. Et on n'a pas de local. Et Julien habite dans un appartement et mes parents ont un garage. Donc, le garage fameux du start-up de garage, c'est le garage de mes parents. Fait que pendant entre 2018 et 2020, je pense, il y avait quoi? 10 machines, 30 tanks de CO2, la stock de bar, les sirops, un mini-fridge, tout le kit, jusqu'à temps qu'on se retrouve un petit U-Haul dans lequel on a commencé à mettre nos affaires. Fait que, mettons, mon père était moins content, puis il croyait moins à mon projet quand à chaque fois qu'il descendait.
Parce que le garage est au premier étage, puis tu sais, le living room ou le salon est au deuxième. Fait que là, des fois, on arrivait, tu sais, dans le garage, puis là, j'espérais que ses parents me voient pas. Tu sais, pourquoi qu'ils me voient, là?
Arrive clean, à dire,
can you take this stuff out? Ou je sais pas quoi, là, tu sais, qu'il m'écrit un peu après, là.
Mais le pire, c'est quand tu sais, 2h du matin, puis là, t'arrives d'un gig, puis t'as des tanks, puis là, ça fait cling, 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 dans l'allée, là.
Ouais, puis t'es un peu réchauffé, fait que ça, waouh, oh, Mike, on l'a eu à soir, ouais,
tu sais. Okay. Tu réveilles tout le monde qui est sur le bloc, là. C'était moins intéressant pour eux là-dedans, mais depuis cette année, depuis nos grandes victoires en entrepreneuriat et comme entrepreneur, c'est là qu'ils commencent à vraiment comprendre que OK, c'est pas juste genre des kids qui sont créés une petite machine pour faire des sideshows, là. C'est des entrepreneurs sérieux.
Il y a du potentiel.
C'est pas juste qu'il y a du potentiel. C'est des gens sérieux.
OK.
C'est des gens sérieux. Tu sais, il faut comprendre que ma famille, on est une famille d'immigrants. Moi, je suis le premier qui est né ici. Puis tout le monde a quitté la guerre. OK? Tout le monde a quitté avec rien, mais rien de rien. Ils sont arrivés ici, puis ont recommencé leur vie de rien. Et c'est tous des gens qui sont comme... qui ont très, très bien fait ça. C'est des personnes qui sont, tu sais, dans classe moyenne, upper middle class. C'est pas des gens qui sont dans une mauvaise situation. Et c'est toutes des personnes qui ont fait ça tout seul. Fait que quand ils me voyaient aller et quand ils me voyaient, tu sais, travailler, c'est surtout ça qu'ils voulaient voir. Ils voulaient voir finalement que, OK, mon fils est capable de faire ça tout seul, qui est un entrepreneur sérieux, qui est capable de, tu sais, sacrifier les bonnes choses puis miser sur les bonnes choses.
Même si on leur empruntait leur char à chaque semaine puis que, ouais. on mettait des tanks de gaz dedans, puis à un moment donné, la suspension a commencé à diminuer.
Mais mettons, on doit à ma mère encore
des voitures.
Une voiture complète. Ouais. À ce point-là, ouais. C'est pas évident quand t'as rien comme entrepreneur, puis ton business te demande beaucoup de ressources, tu sais. Ouais. Julien, tantôt, il a mentionné Manoir Richelieu, c'est 3-4 heures de route avec une vingtaine de tanks dans un petit golf, puis tu dois arriver là, puis tu dois faire un show. Mais,
ce qui est légal en passant.
Oui.
Ben, j'allais vous demander.
C'est très simple, ça s'appelle un waiver. Puis tu signes le waiver, puis la vie est belle, et tu es capable de prendre ces genres de risques.
OK.
And that's what it is, man.
Mais, fait que Adopt Inc, c'est ça le nom du programme? Est-ce que c'est le premier qui a cru en vous ou il y a eu d'autres bourses ou d'autres concours gagnés avant?
Donc, on a gagné Ose Entreprendre en mai 2018 dans la catégorie. Ben, c'est pas le Ose Entreprendre national, là, c'était le Ose Entreprendre régional à Laval pour l'innovation technologique de l'année.
OK.
Donc, ça a été le premier, je vous dirais, concours là, qu'on a gagné. Et le deuxième était Adopt Inc, mais Adopt Inc, ça venait avec tout ce qui était en arrière, là, comme je vous ai raconté tantôt. Et voilà. Donc,
puis après ça, je sais que vous avez eu d'autres reconnaissances récemment.
Oui, donc après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Donc après Adopt Inc, on est allé au Santec, qui est un accélérateur de l'ETS, où est-ce que là, ils nous apprennent à devenir des Jedi. Okay? Les autres, ils disent que les entrepreneurs, c'est des Jedi. Mais ils ont quand même raison, Poppy. Il faut que tu connaisses bien des affaires puis que tu sois quick. Donc, on a fait le Santec. Ensuite de ça, on a eu avec la piscine ce qu'on appelle un PMEIT, qui est un programme d'accompagnement pour des services professionnels. Donc, il finance 90 % de services professionnels. Ça peut être des avocats, des consultants en entrepreneuriat, des CFO par intérim. Un CFO, c'est quelqu'un qui s'occupe de tes finances ou qui fait tes prévisions financières. Et ça nous a beaucoup aidé, en fait, à faire un plan de match parce qu'on roulait. Puis là, on roulait un peu... just do it, là. Genre, sans vraiment de plan, mais on avait du succès et tout ça. Puis là, c'était le temps de mettre en place un vrai plan de match pour pouvoir scaler, là, pour pouvoir aller plus loin. Mm-hmm. Donc, ça nous a donné ça. Puis en fait, entre-temps, la pandémie est arrivée. Et là, pendant la pandémie, ben c'est sûr que nous, on est accompagnés par le CNRC, qui est le Centre de recherche nationale du Canada, qui finance surtout la recherche et développement. Eux autres, ils nous ont beaucoup, beaucoup aidés pendant la pandémie. La Ville de Laval aussi nous a aidés. Même si la pandémie est arrivée, on a pu continuer à grossir notre équipe et continuer à aller de l'avant, à scaler. Okay? Même si on n'avait plus beaucoup d'opérations, là, ou très, très, très minimes, on a réussi quand même à grossir quand même. Et là, tout récemment, donc en 2021, on est récipiendaire de la Bourse Honneur du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et hier soir, on a gagné Faire affaire ensemble à Laval, encore une fois, dans le cadre du défi aux entreprendre. Donc, je t'avais de me faire une bague là, pour chaque concours quand il va. Mais je tiens à dire que pour des jeunes entrepreneurs, des gens qui se lancent surtout dans des innovations qui sont difficiles à comprendre et tout ça, les concours, c'est vraiment un bon chemin parce que ça donne la crédibilité à continuer. Puis en même temps, ben des fois, il y a des cash prizes. Donc, tu sais, tu as un petit peu de capital pour pouvoir continuer parce que, veux pas, on n'est pas en train d'inventer une brosse à dents. Tu sais, c'est quelque chose de complètement différent. Là.
Mais ce qui est intéressant de ce que tu dis, c'est que c'est pas nécessairement pour l'argent.
La
crédibilité.
L'argent, c'est le fun, mais c'est vraiment ce qui est autour. Ouais. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de bien s'entourer et surtout d'utiliser son réseau. T'sais, de ne pas avoir peur d'aller chercher des conseils, des commentaires et de ne pas rester dans son coin. Puis ça, c'est ce qui fait vraiment progresser, selon moi.
C'est une bonne expression, c'est « ask for advice »,« ask for money »,« get advice ». Ask for advice, get money twice. C'est très simple. Okay. Puis c'est vraiment ça, les concours, parce que, tu sais, comme un entrepreneur, tu as besoin que quelqu'un valide, tu sais, que tu n'es pas en train de perdre ton temps. Et c'est ce genre de imposter syndrome où l'espèce de tu te réveilles en panique parce que t'es comme, oh my god, I just spent, like, tu sais, je viens de passer 2 ans de ma vie en train de faire quelque chose que je comprends pas.
Le syndrome de l'imposteur.
C'est 50%. Je dirais 80% de la difficulté d'être un entrepreneur, c'est d'avoir des conversations avec toi-même, puis te convaincre et de comprendre bien que tu fais la bonne chose. Toi, you are your worst enemy.
Parce qu'il y a deux seules émotions hein, dans une start-up qu'on va appeler, là. C'est l'euphorie puis la terreur. Il n'y a rien entre les deux, là,
rien,
vraiment.
Là, c'est soit,
okay. Une journée, tu es terrifié, tu dis « Oh my God, je vais faire faillite. » L'autre journée, tu es content, tu dis « Je vais devenir le prochain grand entrepreneur, je vais accomplir des grandes choses. » Puis après ça, le jour d'après, ben, tu es encore terrifié. Puis là, c'est des grosses montagnes russes.
Mais même ça. Parfois, tu as ça dans la même journée. Là. Tu vois que la forêt qui est terrifiée.
Oh yeah! Oh yeah!
Il y a une journée, je me rappelle, on devait envoyer des machines à Toronto.
Oh my God!
Puis nos machines ont été comme perdues dans le brouillard par UPS. Puis là, finalement, le trade show, le show, en fait, s'en venait. Puis là, mon client, il me dit, ben là, si c'est pas de machine, oublie ça, on fait plus jamais affaire ensemble. Puis, tu sais, pas professionnel. Fait que là, finalement, j'ai dû trouver quelqu'un qui habitait là-bas, un de mes amis, pour qu'il aille chercher à 60 kilomètres, finalement, les machines qui étaient dans un entrepôt. Il a réussi à les livrer, genre, une minute avant. Puis finalement, le show a super bien été. Puis mon client, après, m'a appelé puis m'a payé. Fait que,
c'est... Je pensais que tu t'avais félicité, non, il t'a payé.
Non, non,
c'est,
bon,
c'est rien qu'une félicitation.
C'est mieux au même.
Voilà.
I'll take a check.
C'est ça, dis-moi pas merci, envoie l'argent. Donc, à une minute près, là, c'était...
Wow, écoute, c'était quelque chose à 15 minutes. Pour de vrai, c'était le vrai temps, je pense que c'était 15 minutes avant que le show commence. On installe notre produit, clic, clic, clic. En fait, puis nous, on n'était pas là, là, parce que c'était à Toronto. Tu sais, on va pas, moi, j'allais pas faire 5 heures de route parce qu'on avait d'autres événements aussi cette journée-là ici mm-hmm. au Québec qu'on devait s'occuper. Mm-hmm. Donc, mon ami qui avait jamais vu la machine a réussi à figure out l'installer, puis finalement, ça a bien été. Là. Donc,
wow!
Ouais.
Fait que ça, c'était la terreur, l'euphorie maintenant.
Ben, l'euphorie, c'est qu'après...
La France.
Ben ouais. Oui, la France.
C'était un big win. Ça, c'était quand même un très, très big win qu'on travaille là-dessus encore probablement dans...
Oui, c'est ça. C'est les, comme on dit, les portes sont encore ouvertes. C'est-à-dire qu'en 2019, on s'est fait contacter par un très, très gros groupe français.
Et l'euphorie, je pense, c'était... Ben, d'ailleurs, c'était encore la terreur parce qu'on devait aller faire une démo en France, puis notre machine, on devait la modéliser pour que toutes les pièces fitent avec les standards européens. Donc, quand on était ici, on a réalisé que les tanks en Europe, c'est pas le même fitting. Fait qu'on devait amener des fittings de l'Europe, le tester, mais techniquement, on peut pas le tester ici parce que ben, les bonbonnes ne sont pas là. C'est des bonbonnes qui sont en Europe qu'on sera... On saura jamais si la machine va marcher jusqu'à temps qu'on arrive en Europe et on le teste là.
Vous pouviez pas amener de bonbonne.
Non.
Ben non.
On peut pas importer un.
Tu peux pas amener une tank du gaz compressé dans l'avion. La seule façon, c'est par bateau, mais c'est des délais de 2 mois, tu sais. Puis nous, c'était short notice, là. Ils nous ont dit ça une semaine, 2 semaines avant. Bon, ben, vous en venez en France. Fait que, ben, en fait, vous nous faites une petite démo, là. C'est pas plus compliqué. On vous paye l'avion, l'hôtel et tout. Et vous repartez 2 jours plus tard. Fait que ça a été un in and out, là, tu sais.
Un in and out de terreur.
Puis c'est drôle parce que là, tu sais, on amène, pour ceux qui voient, puis en fait, comment j'ai décrit la machine tantôt, tu sais, c'est une affaire qui sort un peu de l'ordinaire. Donc, on arrive à l'aéroport avec ça, tu sais.
Oh!
Ouais, j'ai une question.
Et là, c'est qu'est-ce que c'est? Tu sais, puis là, même la manager descend, là, la manager des tous les petits postes en avant où est-ce que tu t'enregistres, là, elle descend, elle vient regarder, elle est comme démontée là devant moi, tu sais, puis tout ça. Fait que là, on était là, puis on avait prévu notre coup, on avait amené des tournevis, tu sais. Fait que on la démonte, on y monte, gars, il n'y a rien d'autre dedans, il n'y a rien de caché, tu sais, puis tout ça.
La sécurité là, en arrière avec leur main sur
le
les fusils, ils attendent, genre.
Tu sais, devant tout le monde, là, il y avait un line-up en arrière de nous autres, puis là, on était là devant en train de monter la machine, les gens étaient curieux, tu sais, tout ça. Donc là, finalement, OK, tout est beau, on la pèse, on est une livre trop lourd que même en payant l'extra bagage, et l'extra-ci, l'extra-son, on peut pas. Fait que là, ils nous disent, ben, trouver un moyen. Fait qu'on a enlevé des pièces qu'on a mis dans nos valises. Puis on a laissé les restes aller là-bas. Puis là, on se croise les doigts, tu sais. Ça va-tu arriver là-bas, là, où ça va se faire interrompre à quelque part parce qu'ils pensent que c'est un engin terroriste, là, tu sais, là. Donc voilà, c'est des gros stress, mais finalement on est arrivé là-bas, on a testé la machine, ça a fonctionné du premier coup.
Ah,
puis
wow.
On est allé faire la démo, mais là en arrivant à la démo, on voulait montrer des huîtres, tu sais, pour montrer qu'est-ce qu'on fait ici au Québec.
Mm-hmm.
Mais on est lundi. Puis le lundi en France, les poissonneries sont fermées, sauf une qui est à l'autre bout de la ville. Puis là on est comme 15 minutes, tu sais, sur la démo, fait qu'on a couru, on arrive à la démo finalement tout en sueur. On fait la démo, ça se passe super bien. En fait, on arrive là, tu sais, on s'attend à faire la démo, puis ils sont comme, ben, en fait, on va déjeuner, quoi. Donc, nous autres, on a tout rushé ça, tu sais. Puis là, ils nous amènent manger, puis là, finalement, tu sais, moi, j'aime les escargots, je prends les escargots, puis là, ça arrive en coquille. Direct, ça arrive pas comme ici là dans un espèce de petit plat
préarrangé.
Non, c'est dans coquille direct, puis faut que tu aies une technique là pour les sortir. Quand on a eu l'air un peu rudimentaire là-dessus, puis après ça ben ils ont eu leur lot de questions là. Alors, il fait froid au Québec? Ben oui, regardez, on a inventé une machine qui fait ça. Fait que, ça a été toute une aventure. Puis, tu sais, c'était moi et Mike tout seul, deux ticounes qui s'en vont à l'international en amenant de la marchandise commerciale, rencontrer cette grosse entreprise-là dans Paris, partout.
Planet Hoster est fier de commanditer les podcasts simplement audacieux. Votre hébergeur web loue-t-il ses serveurs ou bien possède-t-il sa propre infrastructure? Il s'agit d'une question importante à valider lorsque vous magasinez votre hébergement web. Planet Hoster est propriétaire de ses infrastructures serveurs et son équipe s'engage à vous offrir un service clé en main haut de gamme. Communiquez avec nous pour connaître le service adapté à vos besoins.
Donc, tantôt, là, ce qu'on disait, on l'a abordé un peu, mais je vais y aller plus en profondeur. Vous faisiez des événements, beaucoup. Il y a eu une pandémie qui a demandé à tout le monde de rester chez eux. Les événements ont été annulés. Tu nous as expliqué que tu avais quand même réussi à avoir de la croissance. Tu as parlé de scaler, même si vous aviez plus d'opérations. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé?
Étant donné que nous, on fait beaucoup de recherche et développement, il y a beaucoup de programmes qui aident à l'innovation. Puis pendant la pandémie, ces programmes-là étaient bonifiés, si on veut. Donc, nous autres, on n'en a pas, je vous dirais pas profité parce que, tu sais, c'est sûr,
on notre marché. Bénéficier,
c'est ça. Mais avec ces subventions-là, avec tout ce qui était disponible pour la pandémie, puis les concours qu'on a gagnés dans la dernière année, ben on a pu passer notre équipe de 2 personnes, moi et Mike, à 9 à temps plein, plus 6 à temps partiel, plus quelques consultants. Puis là, notre gros défi en ce moment, quand les opérations vont reprendre, c'est de pouvoir maintenir ces gens-là, mais on n'est pas stressé. On a déjà des contrats de bouquet au mois d'août.
Quel type de contrat? Est-ce que c'est de l'événementiel?
Oui, l'événementiel extérieur. On a un contrat à Niagara pour 550 personnes. Là.
Wow.
On va voir si ça va aller de l'avant. Mm-hmm. Sauf que comment le contrat est fait, c'est que plus ils nous annulent tard, bien, plus la pénalité est grande. Okay. On avait un milestone le 15 avril. Ils ont dit on va de l'avant. Le prochain milestone, c'est le 15 mai.
Okay.
Fait que, avec ce qui se passe en ce moment, je pense que ça devrait y aller. Là. Puis en même temps, ben, on a profité de la pandémie pour développer un nouveau produit qui va s'adresser aux bars, restaurants et hôtels. Parce que tu as parlé qu'on faisait de l'événementiel, ce qui est vrai, mais au début, c'est pas ça qu'on voulait faire. Au début, on voulait prendre cette machine-là puis la mettre dans un bar.
Dans ton bar.
Dans mon bar en premier, mais bon.
Dans les bars, c'est ça. Puis c'était Vegas que... Il a vraiment changé les choses.
C'est ça, on est allé à Las Vegas parce qu'on s'est dit bon, on va réussir à vendre ce cossin-là. Puis finalement, ben on en a vendu, mais on s'est rendu compte assez vite que on n'avait pas ce qu'on appelle le product market fit. C'est-à-dire que le produit était pas assez ergonomique, était trop gros, compliqué un peu trop à utiliser, etc. Fait que les restaurants étaient super intéressés, mais ils disent ah, tu devrais modifier telle affaire. Et là, on avait tout dépensé notre argent de start-up. On pouvait plus rien faire. Il fallait commencer à générer du revenu. Donc, en revenant au Québec, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on se fait appeler par le Château Frontenac qui nous dit, moi, là, je l'achèterai pas ta machine, mais tu me ferais-tu un événement? Ben oui. Fait qu'on s'est pointé là. On a fait un petit événement. Okay. Le premier Aperol Spritz, notre fameux Aperol Spritz est né là. Et, voilà. Après, on s'est dit, ben, pourquoi est-ce qu'on répéterait pas la formule? Et c'est ce qu'on a fait. Puis, à un moment donné, on faisait quelque chose comme 5-6 événements par semaine. Des événements entre 50 et 500 personnes.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça qui nous a fait rouler, mais ça nous a toujours resté à cœur de développer finalement le produit initial qui s'allait s'adresser aux bars et restaurants, parce que c'est là que la grosse valeur ajoutée, elle est. Puis c'est là aussi que les gens peuvent utiliser le plein potentiel du produit, autant au niveau créatif que d'efficacité puis de rentabilité. Aussi.
Moi, ce qui m'a fait sourire quand j'ai fait les recherches là, sur votre entreprise avant l'entrevue, c'est la fameuse phrase « On se donne comme mission de démocratiser le froid ».
Ouais,
oui,
absolument, absolument. C'est drôle à dire et c'est un peu drôle parce que souvent, on entend le mot « démocratiser » avec d'autres produits ou d'autres choses.
Ça à la mode, froid. Ce mot-là.
T'sais, ici, au Canada ou en Amérique du Nord, surtout, on est un peu choyé avec l'électricité. Il y a certains phénomènes qu'on n'a pas. Certains problèmes qu'on n'a pas en Amérique du Nord et l'électricité étant un. Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point compliqué d'avoir un frigo en Inde, en plein banlieue de Calcutta ou en plein slum de Calcutta?
Mm-hmm. Ouais.
Avoir des fils électriques qui passent pour un 220... pour un 220.
Ça, c'est un frigo, là, c'est pas un congélateur.
Ah, ouais. On n'est même pas rendu là, tu sais. juste pour garder des affaires assez frais.
En effet.
OK?
Ouais, ouais.
Ben, c'est la réalité pour pas mal comme 80% du monde et la grande majorité des pays. Même ici, en Amérique du Nord, tu sais, ça veut dire au Mexique, ils l'ont pas mieux qu'en certains pays en Asie, tu sais. Donc, pour nous, oui, aujourd'hui, on est en train de transformer la façon que les gens perçoivent le saveur et tout ça, et toutes les affaires de froid. Mais dès qu'on va avoir une modélisation d'une machine qui peut créer des cubes de glace, mais on en a déjà un, mais des cubes de glace instantanés n'importe où, ben, je peux créer des cubes de glace dans le désert sans avoir besoin d'électricité. Et donc, les pays du tiers-monde qui ont, ben, fondamentalement, tout le monde a besoin du froid. Le froid, c'est quelque chose nécessaire à la société pour qu'ils puissent avancer dans la conservation, dans tout. Ben, à un moment donné, notre machine va permettre à ces gens-là de faire les procédés, de faire des expériences, de faire des affaires sans avoir besoin d'une immense infrastructure électrique qui va autour de ça. Wow. Et c'est pour ça vraiment que la démocratisation, c'est ça le mot qu'on a choisi.
Ouais.
Parce que not to brag or anything, mais comme je pense que la machine, on dépense le plus d'argent qu'on pourrait imaginer là-dessus, mais on aurait un manufacturing cost de 20 000 $. Mais les grands congélateurs, comme Julien décrivait, c'est des affaires qui coûtent des millions.
Mm-hmm.
Donc, si on est capable d'offrir un service ou d'offrir ce bien à un coût, c'est drastiquement moins cher que n'importe quoi d'autre sur le marché, ben ça change la game.
Je suis vraiment contente d'avoir posé la question parce que je l'avais pas du tout perçu ça. Puis je suis allée à Kinshasa, puis il y avait des shutdowns d'électricité régulièrement. On avait quelques heures d'électricité par jour. Donc effectivement, les gens vont au marché à tous les jours. Tu fais pas de réserve là, comme ici, t'as pas de frigo. Je le vois là.
Absolument. Wow. Mais pas pour dire rien, mais il y a certaines théories derrière le COVID comme quoi ça a commencé dans des wet markets, que ce soit le COVID ou d'autres choses qui viennent souvent dans des wet markets. C'est parce qu'il n'y a pas de congélation et les choses ne sont pas protégées, les choses ne sont pas conservées. Tu as des bactéries volatiles partout.
Intéressant. Je ne l'avais pas vu comme ça, moi non plus. Absolument. Bravo. Donc, où est-ce que vous voyez dans 5 ans d'ici, Éthar Innovation?
Dans 5 ans, on va être plus diversifié. Donc là, on n'en a pas parlé, mais on s'en va.
Mike fait le...
Il faisait comme s'il était allongé au soleil.
Ouais, voilà.
Non, c'est une blague, mais...
Ouais, Mike, si on ouvre une filiale aux Bahamas, on l'enverra. Oh,
yeah.
Mais, dans 5 ans, ben, il y a plusieurs choix. Hein. Premier choix, qui est le moins le fun, c'est est-ce que l'entreprise va exister encore? Hein, on sait que... les startups, c'est toujours très risqué. On se le souhaite pas, on touche du bois. Je pense pas que ça va arriver, mais il y a toujours ce choix-là. Le deuxième choix, c'est que tout soit bien allé et qu'on soit diversifié. Donc là, on n'en a pas parlé, mais on rentre tranquillement pas vite dans les laboratoires de recherche pour geler des échantillons de protéines purifiées, de l'ARN, de l'ADN, hein, qui est pas mal à la mode en ce moment là, avec les vaccins et tout ça. Donc, notre technologie, oui, c'est le fun, ça démocratise le froid, mais pas juste dans l'alimentaire, dans beaucoup d'autres secteurs. Le froid est utilisé partout, puis c'est quelque chose qui a été probablement négligé, on dirait, depuis les débuts de l'industrialisation de l'humanité. Bon, mais aussi, puis ça, c'est dans notre ambition, c'est d'être le micro-ondes, mais pour le froid. C'est-à-dire que sur votre comptoir de cuisine, vous allez avoir un micro-ondes, mais vous allez aussi avoir une patente qui va être la nôtre, qui va pouvoir vous conserver votre nourriture de meilleure façon. Parce que quand on gèle rapidement, les cellules sont préservées. Hein? Ça ne coûte pas le congélateur, là, si on veut. Là.
Wow,
ça reste frais. C'est ce qu'on appelle de la surgélation personnelle. Mais aussi, vous pourriez vous faire des petits popsicles pour vos enfants puis des cocktails sur le comptoir de votre cuisine. Donc, nous, on se voit, la machine, dans ce temps-là, va ressembler plus à un soda stream. Je ne sais pas si vous connaissez, là, pour faire des pétillants dans votre eau. Pas d'électricité, c'est simple. C'est un petit truc mécanique, etc. C'est une petite bonbonne de gaz. Donc, ça va être quelque chose comme ça, mais pour vous donner accès au froid. Hein, on cuisine par le chaud, nous
Excellent.
Autres. Un petit peu par le froid, hein, des affaires congelées, etc. Mais pourquoi pas commencer à explorer le potentiel du froid de plus grande façon puis de rendre ça chez vous, sur votre comptoir de cuisine. Non seulement au Québec, mais partout dans le monde. Nous, on veut être le micro-ondes pour le froid.
Quelqu'un qui commence, qu'est-ce que vous lui diriez?
Ben Mike, je terminerai sur cette question-là.
Yeah, sure. Qu'est-ce que je dirais à ces gens-là?
Mettons que tu parlerais à toi, là.
Ouais. Numéro un, n'ayez pas peur. La peur, c'est ton fuel. Are you afraid? Good. Good. You should be afraid. You should be terrified.
C'est ton gaz, c'est ton essence.
C'est ton essence. La peur, c'est probablement l'émotion le plus important pour un entrepreneur parce que c'est la peur de... pas de la faillite, mais tu dois avoir peur que ton idée ne va pas se réaliser pour être capable et que tu sois en mesure de le réaliser. Parce que si t'as pas peur, il y a rien d'autre autour de toi, t'as pas de pression, puis tu peux pas avoir des diamants sans pression. Tu sais, c'est quoi un diamant? C'est un morceau de charbon qui s'est fait battre jusqu'à temps qu'il devient parfait. Fait que, pas peur de te faire battre parce que the world is cruel, puis tu sais, il y a rien, tu peux rien vraiment confirmer. C'est l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu. Utilisez cette peur-là pour vous-même. Utilisez-la pour imaginer. L'imagination aussi, ça fait partie de l'entrepreneuriat parce que si t'es pas capable de voir assez loin, si t'es pas capable de voir des affaires un peu ou d'apprécier des affaires un peu absurdes, un peu hors du commun, tu serais jamais capable d'avoir la vision long terme ou voir les opportunités qui pourraient peut-être arriver dans le futur. Et ce genre d'anticipation-là, ce genre de vision est très, très important pour un entrepreneur.
Donc, c'est bon d'avoir peur en autant que ça te paralyse pas.
Exact.
En autant que tu utilises la peur pour aller chercher des ressources, aller chercher des connaissances.
C'est ça. Okay. C'est ça. Chaque fois que tu ne connectes pas quelque chose, ça veut dire que tu as besoin de quelqu'un.
Voilà.
Ah, c'est bon. C'est intéressant. Moi, je dirais un conseil à un jeune entrepreneur qui commence, il faut que tu aies la soif d'apprendre parce que tu es peut-être spécialiste, tu es peut-être un ingénieur ou tu es peut-être un cuisinier hors pair ou quelqu'un qui a inventé une patente dans un certain domaine, mais ton domaine que t'es confortable dedans, il est tout petit comparé à ce que l'entrepreneuriat nécessite pour la réussite. Donc, n'aie pas peur d'apprendre. Puis, apprendre quoi? Moi, je dirais deux choses. La première étant les règles du jeu. C'est comme si je t'invitais, je te disais, viens, on va jouer au Monopoly, mais tu connais pas les règles. C'est, selon moi, c'est pas mal sûr que je vais gagner contre toi, right? Hein? Donc, à la fin de la journée, c'est un petit peu ça. Hein? Donc, bien connaître les règles du jeu dans lequel tu joues et pour les connaître, avoir la soif d'apprendre. Maintenant, la deuxième chose que je dirais, c'est de connaître le jeu des humains. Un humain, c'est quoi? Parce qu'à la fin de la journée, derrière chaque dollar, il y a un humain qui te le donne. Donc, de bien comprendre que c'est des relations humaines que tu bâtis autant dans ton équipe qu'à l'extérieur de ton entreprise, ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas compris au départ. Je voulais être un ingénieur derrière le rideau. Et comme je mentionnais tantôt, quand j'ai été comme un peu forcé à devenir un entrepreneur, j'ai appris ça roughly, que les humains, c'est eux qui font en sorte que ton entreprise a du succès, hein? qui t'achète ton produit, qui te conseille, etc. Donc, pour donner une métaphore à quelqu'un qui commence, là, parce que c'est très complexe comme idée, là, je la donnerais, moi, de cette façon-là.
Wow, j'aime ça beaucoup.
Un grand merci encore, messieurs.
Plaisir.
Réellement fascinant, votre histoire. Longue vie à Ether Innovation. Vous commencez. Merci. Je pense qu'il y a énormément de potentiel. Merci encore, ça a été vraiment plaisant.
J'aime beaucoup votre complicité, là. C'est extrêmement chouette. On voit que vous
mettez... Ça, c'est quand on se tape pas dessus, là.
Ouais, non, mais on voit que vous mettez en œuvre le conseil que vous avez donné de bien s'entourer. Je sens une complicité entre vous deux, une complémentarité. Fait que merci de t'être joint à l'aventure le podcast à la dernière minute.
Merci.
C'était vraiment une belle rencontre. Je vous souhaite longue vie. Puis j'ai bien, bien hâte d'avoir mon micro-ondes de congélation sur le coin de mon comptoir.
Ça s'en vient. C'est une promesse.
Take your word on that. Bravo. Voilà. Nous espérons que vous avez apprécié cet échange autant que nous avons eu de plaisir à le réaliser pour vous. Le prochain épisode de Simplement Audacieux présente le parcours d'une femme exceptionnelle, Caroline Lebeau, qui, au fil des expériences et mettant à profit un humanisme et une curiosité infinie, a su répondre à divers besoins d'enfants et d'adultes vivant avec des limitations.
La pandémie nous a tous affectés. Vous souvenez-vous de l'apparition du mot « distanciation », un terme très peu utilisé avant mars 2020? Comment permettre à de jeunes enfants d'inculquer ce nouveau concept de manière ludique et apaisante? Caroline a su trouver une voie au travers de son entreprise Regard Neuf. Ne manquez pas ce prochain épisode rempli de douceur. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast, partagez-le à votre entourage et écrivez-nous des commentaires. Nous aimerions également entendre vos suggestions d'entrepreneurs inspirants et audacieux pour nos prochains épisodes. Visitez notre site web à lavalinov.com dans la section « Équipe » pour nous rejoindre personnellement.
Vous pouvez écouter le podcast Simplement Audacieux gratuitement sur le site web de Lavalinov ou encore là où vous avez écouté cet épisode. Simplement Audacieux est une production de Lavalinov.
À la réalisation.
Vidéo Marketing Québec.
Au soutien logistique.
L'agence EMI.
À la musique.
Marc Gravel.
À l'infographie et au marketing.
HKD Design.
Merci à tous.
Hey, Julien, t'as-tu encore ton bar?
Non.
Tu l'as vendu quand?
2017.
OK. Tu l'as gardé combien de temps?
7 ans.
Ouais. Quand même?
Ouais.
Je pensais que tu allais demander s'il allait faire du beatbox.
Oh! Hey! Beatbox!
Ah, non.
Oh, juste un tout.
Ouais?
Ouais.
Bon, ben, donnez-moi une chanson de rap que vous connaissez ou Mike est en connais-tu une?
Qu'est-ce qu'on fait là?
Ben, tu sais, une qui est classique, genre.
C'est très bon sur la pression.
Ouais, exact. Ouais. Fantastique.